Je pense que c'est mieux.
Oui.
Voilà, excusez. Oui, merci beaucoup, madame, vraiment pour cette question et que je viens de voir tout de suite. J'ai vu la situation parce que les zones dans lesquelles nous intervenons, exactement mon petit fait partir de cette zone, parce que Messenger intervient en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale dans cette zone. Donc, comme vous avez dit tout de suite, la situation vraiment des réfugiés dans cette zone est plus qu'alarmante et principalement à cause vraiment des conflits que vous avez tout de suite cités, du changement climatique, des retombées économiques de COVID-19 et surtout de la guerre aussi entre vraiment la Russie et l'Ukraine. Je pense que beaucoup de réfugiés sont pris aussi au piège vraiment d'un assistanat provenant vraiment d'un système humanitaire qui est débordé et qui pourrait disparaître aussi demain matin. Et pourtant, ils n'ont aucune autre possibilité que cela de subvenir à leurs besoins et à ceux vraiment de leur famille. Donc, ce que je voulais vraiment juste dire, que nos équipes sur le terrain continuent vraiment d'être témoins des défis causés par ces déplacements dus aux conflits et en cours et aux catastrophes climatiques qui affectent vraiment des générations. Donc, pour moi, la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a subi des déplacements vraiment prolongés et des conflits de longue date avec des nouvelles crises émergentes dans des endroits comme le Soudan, poussant davantage les réfugiés dans des pays comme le Tchad et la République centrafricaine. Et tout cela a comme conséquence la concurrence pour les ressources aussi, dont vraiment les gens en ont besoin. Je peux m'arrêter là pour le moment. Merci.
L'Est de la RDC est une zone qu'on évoque régulièrement en parlant de la crise des déplacés en Afrique. Et récemment, le CICR a dû suspendre son assistance en vivres à des milliers de déplacés à cause de combats qui ont provoqué de nouveaux déplacements de population. Monsieur Nzouzi, est-ce qu'on en parle assez de la situation dans l'Est de la RDC et des conditions de vie de ces déplacés?
Non, malheureusement, vous venez d'évoquer le problème qu'a connu le HCR. Il faut ajouter à cela le manque de moyens, parce que sur les 250 millions de dollars qu'attendait le HCR pour pouvoir mener à bien ses opérations d'accompagnement et de soutien, seuls 14% ont été versés, ce qui montre bien la difficulté aujourd'hui pour la communauté internationale de se mobiliser. À côté de cela, évidemment, il y a cette situation humanitaire dramatique, dévastatrice. Sans nom, je rappelle que sur les 120 millions de personnes déplacées et de réfugiés recensés dans le monde, 7 millions se trouvent en République démocratique du Congo. Ce qui montre effectivement l'urgence, mais surtout la nécessité d'une meilleure coordination de cette aide. Je pense que les agences qui agissent sur le terrain le font de très bonne foi, mais il manque deux choses. D'une part, les moyens financiers, mais aussi la volonté politique de certains acteurs importants qui parfois préfèrent ménager la chèvre et le chou.
Le Conseil norvégien a publié récemment une liste des 10 crises de déplacement de population dans le monde et sur cette liste, 9 pays africains y figurent. Cela est-il évocateur du peu d'intérêt que l'on porte au mouvement forcé des populations sur le continent africain, M. Drabo?
Oui, absolument. Merci de m'avoir invité à cette émission. Comme vous l'avez dit, effectivement, il y a deux semaines, nous avons publié un rapport sur les 10 crises les plus négligées au monde. Et sur les 10, il y a 9 crises qui sont les plus négligées en Afrique. Notamment les 3 pays d'Israël central, il y a la RDC, le Cameroun, le Soudan, le Tchad, entre autres. Et cela est indicateur de la négligence. Pour nous, ce n'est pas de l'oubli, c'est de la négligence. Et pourquoi on fait sortir ce rapport? C'est principalement pour justement attirer l'attention de la communauté internationale sur tout ce qui se passe dans ces pays de conflit, notamment le manque d'attention médiatique, le manque d'engagement politique et diplomatique, mais aussi l'absence des ressources financières pour pouvoir répondre efficacement aux besoins des personnes touchées par ce conflit. Je voulais justement profiter de l'occasion pour rebondir un peu sur votre reportage. Moi, j'étais à Koro il y a à peu près un mois, et ça, l'immensité des besoins et le flux des réfugiés, l'impact en fait des conflits dans la région est très frappant. Et en février, il y a eu, vous savez, des grands combats perpétrés par les groupes armés au nord du Burkina. Et ça a occasionné à peu près plus de 60 000 réfugiés burkinabés qui sont déplacés pour aller au centre du Mali. Et quand on regarde, en fait, c'est pratiquement la même chose qui se passe dans la plupart des pays africains. Vous avez des gens qui quittent l'Est, la RDC pour aller en Ouganda. Vous avez des gens qui quittent l'Érythrée pour venir au Soudan, alors que le Soudan lui-même est confronté à une grave crise. Vous avez des Soudanais qui viennent au Tchad. Vous avez des Burkinabés qui vont au Niger, des Nigériens qui viennent au Burkina, des Nigériens qui viennent au Niger. Donc c'est une sorte d'imbroglio humanitaire dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et je voudrais ajouter aussi que la disponibilité des ressources financières pour répondre aux besoins, à elles seules ne suffit pas. Il faut mettre fin au conflit. Et pourquoi mettre fin au conflit? Par quoi? Par quels moyens? Il faut du dialogue, il faut de l'engagement diplomatique et politique, de la part des décideurs politiques, mais aussi de la part des organisations internationales. Et c'est à quoi le Conseil norvégien pour les réfugiés a engagé à travers la publication de ses rapports.
Un imbroglio humanitaire et dans un contexte où règne le manque de financement et l'insécurité. La question qui me taraude, c'est comment se passe l'accueil des réfugiés sur le terrain. En Afrique, les regards sont tournés, vous l'avez mentionné, vers le Tchad depuis le début du conflit au Soudan, mais le Sahel n'est pas en reste. Docteur Aïdara, qu'en est-il à votre niveau? Comment se passe cet accueil sur le terrain? Et surtout, sur quoi devrait-on mettre l'accent sur aujourd'hui, ce jour où l'on met en exergue la condition des réfugiés?
Merci beaucoup, madame. Je pense que, comme vous venez de dire, la situation vraiment est très compliquée pour vraiment les villes qui les accueillent et les villages qui les accueillent. Ces zones sont déjà affectées, et comme on disait tantôt, que ce soit par la sécheresse, que ce soit par les conflits, que ce soit par les différentes crises économiques. Et déjà, en ayant toute cette masse qui vient dans cette zone, ça aggrave encore vraiment la situation. Donc ça fait que des deux côtés, le mal est infini. Ceux qui reçoivent et ceux qui viennent aussi. Parce que ça met de la pression sur les ressources naturelles qui existent déjà dans la zone. Par exemple, que ce soit les questions d'eau potable, que ce soit les questions de nourriture, dans les zones d'accueil. Par exemple, on vient de parler tout de suite de la région vraiment de Mopti. Des gens qui quittent le Burkina pour venir dans la zone de Koro. Moi, je suis de la région de Mopti. Je sais, par exemple, en 5 ans, combien de fois la population a augmenté et combien de fois il y a les pressions et la pression sur les ressources naturelles. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une vraiment crise de tous les côtés. Ce qu'il faut faire et ce que nous, on est en train vraiment de faire, d'essayer d'appuyer, c'est comment aider vraiment ces réfugiés dans la dignité avec les différents éléments, que ce soit vraiment des kits de nourriture et des kits qui ne sont pas aussi de nourriture qui peut vraiment les aider. Et je donne par exemple un exemple. On s'est rendu compte qu'en donnant vraiment du cash à ces différentes populations réfugiées, ça peut vraiment les aider à avoir les besoins réels dont ils en ont besoin. Parce que souvent, il peut même avoir des choses, quand tu n'as pas vraiment l'argent, tu ne peux pas avoir accédé à la nourriture. Et quand on a fait une évaluation dans une zone comme le Soudan, on a trouvé que tout l'argent qu'on a donné aux gens, ils ont utilisé vraiment pour avoir la nourriture. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons vraiment y penser de comment faire à trouver vraiment des solutions résilientes à long terme pour ces populations. Nous avons aussi des éléments pour aider à peu près les jeunes à avoir vraiment du travail, ce qu'on appelle vraiment aussi le job vite. Donc vraiment, pour un peu soutenir la population qui sont en train de recevoir et aussi les réfugiés, je pense que nous devons avoir des solutions innovantes et des solutions à long terme. Je vous remercie.
J'aimerais rebondir sur ces aspects justement avec vous, Monsieur Ndouzi. À quoi servirait l'argent quand il n'y a pas la sécurité? Que dire alors de la protection des droits des réfugiés si les besoins primaires ne peuvent pas être remplis?
Alors, je pense que l'argent ne règle peut-être pas tout, mais ça permet néanmoins de responsabiliser individuellement, je dirais, ces populations, en leur donnant tout de même le sentiment d'avoir une forme d'autonomie et de ne pas être une sorte de variable d'ajustement que l'on vient encadrer uniquement de manière ponctuelle jusqu'à la prochaine crise. En réalité, il faut agir à trois niveaux. Le premier, évidemment, c'est celui de la protection de ces populations en créant les conditions, je dirais, d'une meilleure sécurisation. À côté de cela, si on veut véritablement les aider, c'est de pouvoir créer soit des couloirs humanitaires ou en tout cas des canaux permettant d'acheminer en toute sécurité l'aide auxquelles ces populations ont droit. Et puis un troisième niveau, et c'est ce qui est actuellement en tout cas suggéré en République démocratique du Congo avec notamment le processus de Nairobi, puisque l'on sait que les groupes armés, je dirais, rendent la situation extrêmement complexe, et bien le but c'est de les intégrer dans un processus de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation qui permet effectivement de pouvoir déjà créer les conditions d'une paix durable. Autrement, eh bien, nous allons tourner en rond si l'on ne touche pas à ces trois dimensions que je viens d'évoquer, car ces crises restent évidemment multidimensionnelles. Au-delà de la crise humanitaire, vous avez effectivement une crise liée à l'exploitation illégale des ressources naturelles, ce qui aggrave le conflit et par voie de conséquence justifie l'activité des groupes armés. Il faut agir à ces trois niveaux.
Antoine Drabo, y a-t-il à ce jour des politiques efficaces adoptées par certains pays africains pour gérer les flux de réfugiés, des politiques qui peuvent servir d'exemple pour d'autres?
Alors, en matière de politiques efficaces pour gérer les flux de réfugiés dans les pays d'accueil, on va dire que ce n'est pas forcément un exemple que nous avons aujourd'hui en main, en tout cas venant du continent africain. Ce que l'on peut, en tout cas, louer, c'est surtout la générosité des communautés hautes dans les différents pays, notamment en Ouganda, qui reçoit des millions de Congolais, mais aussi de Burundais. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la Convention sur le statut des réfugiés, il y a la Convention de Kampala, qui, en quelque sorte, oblige un peu les États à prendre les actions nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins des réfugiés et aussi des déplacés internes. Mais des politiques efficaces pour mettre fin complètement au conflit ou pour pouvoir diminuer, on va dire, pour tout le monde, les flux de réfugiés de leur pays de départ à leur pays d'accueil. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore un exemple type en main. Mais en tant qu'ONG, en tant qu'humanité, ce que nous essayons de mettre en avant, c'est surtout demander aux décideurs politiques, mais aussi aux communautés hautes, de manifester en fait leur générosité, leur gentillesse pour pouvoir aider ces personnes dans les besoins, mais tout en mettant en place, que ce soit ça, c'est la responsabilité des pays de départ, mettre en place des mécanismes, des politiques pour pouvoir mettre fin aux différentes crises, aux différents conflits qui génèrent en fait cette coupe des réfugiés de leur pays vers d'autres pays voisins. Comme vous le savez, la plupart des départs, des déplacements se font chez les voisins immédiats dans les pays de conflit. Donc, pour l'instant, on n'a pas un exemple type, mais c'est en tout cas une assez vertu à faire à travers justement notre piliers de plaidoyer, toutes les réunions que nous essayons de faire avec les pays des fonds, mais aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies, et tous les acteurs qui peuvent peser dans la résolution pacifique mais diplomatique des différents conflits sur le continent.
Et est-ce que le citoyen lambda se sent concerné par la question des réfugiés en Afrique? Nous avons eu très très peu de réactions à ce thème sur les plateformes de VOA Afrique. Je vous propose le commentaire de Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, qui nous dit que l'accueil des réfugiés est à la fois un devoir moral et humanitaire, car quiconque pourra devenir réfugié, les différentes crises de réfugiés en Afrique auront pour impact, selon lui, à long terme, le dépeuplement suite au départ massif et une main-d'œuvre qualifiée insuffisante ou inexistante. Voilà qui nous conduit à la seconde partie de cette émission Washington Forum en direct de VOA Afrique. Restez avec nous, on se retrouve après la pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOAfrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Washington Forum sur VOAfrique, bienvenue si vous nous rejoignez. Cette émission est consacrée à la journée mondiale du réfugié. Nous analysons les conditions de vie des personnes déplacées en Afrique et les défis auxquels font face les pays d'accueil. Avec mes invités de Dakar, nous avons Dr Fatoumata Aïdara, directrice régionale de Mercy Corps pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. De Dakar également, Ousmane Drabo, conseiller média et porte-parole pour le bureau Afrique de l'Ouest et du Centre du Conseil norvégien pour les réfugiés. Et nous avons depuis Bruxelles Henri Désiré Ndouzi, producteur de JT diplomatique, analyste géopolitique. Docteur Aïdara, de ce que vous avez observé, l'espoir d'un retour chez soi est-il permis aujourd'hui pour les personnes déplacées en Afrique ou est-ce une utopie selon vous? Nous avons encore perdu votre audio. Vous pouvez réactiver l'audio, s'il vous plaît.
Désolée, je l'avais enlevé. Merci beaucoup vraiment, Alexandrine. Comme je dis, l'espoir est toujours permis. Et avec tout ce que nous sommes en train d'entendre, c'est vrai que nous avons beaucoup de défis, mais nous avons besoin de plus d'engagement. Et comme je l'avais dit, de plus d'engagement de tous les côtés. Il a parlé vraiment de la solidarité. Ça, c'est un élément essentiel. Nous avons besoin aussi du soutien vraiment des bailleurs de fonds pour avoir des fonds. Parce que si nous voyons aujourd'hui, par rapport à la demande, nous avons moins de 11% pour pouvoir répondre aux besoins essentiels vraiment des réfugiés. Donc nous avons besoin de soutien à tous les niveaux pour pouvoir vraiment appuyer. Donc pour ça, nous avons aussi besoin de solutions durables, des solutions durables à ce phénomène, comme je dis, c'est-à-dire pour la recherche vraiment de l'emploi pour les jeunes, l'éducation pour les jeunes et les enfants, et aussi des opportunités économiques pour vraiment les femmes et encore pour les jeunes. Donc pour moi, si nous nous mettons ensemble, nous avons besoin vraiment d'un changement radical, et si nous serons capables vraiment de faire ce changement radical, je suis sûr que l'espoir serait permis et les gens pourraient retourner en ayant vraiment des activités qui sont durables, qui pourront vraiment les soutenir. Je m'arrête là.
Monsieur Ndouzi, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme réforme nécessaire au niveau régional ou international pour améliorer le sort de ces personnes déplacées, peu importe la région aujourd'hui en Afrique?
Oui, je pense que prise de conscience internationale sur la question me paraît importante et donc la mise en place d'outils ou d'instruments permettant effectivement de coordonner de manière efficace à la fois le retour de ces populations déplacées dans les zones à partir desquelles elles ont été contraintes de partir. C'est une plus grande responsabilité des responsabilisations des pouvoirs publics, des pays qui sont confrontés à cela, car il n'est pas question évidemment pour ces pays de se contenter de l'aide internationale. Il s'agit aussi, je dirais, de pouvoir assumer pleinement ces missions régaliennes. Il faut donc un consensus, d'abord au niveau africain, ensuite au niveau international, sur la manière la plus efficace de régler ce problème. Il faut aussi et surtout mettre en place des mécanismes permettant à la fois de sanctionner ceux qui tirent profit de cette situation. On pense à certains acteurs que l'on peut aisément deviner, qui sont, je dirais, à la fois bénéficiaires de cette situation d'insécurité, qui a évidemment pour objectif, dans la plupart des cas, d'accéder de manière quasi illimitée à des ressources naturelles au détriment du bien-être de ces populations qui ont besoin d'une plus grande protection internationale.
Comment l'opinion publique dans les pays ou les zones d'accueil peut-elle être mobilisée pour soutenir des politiques plus accueillantes et inclusives pour les réfugiés, Monsieur Drabo? Parce qu'on parle des politiques, on parle des gouvernements d'une manière générale, mais on n'inclut pas le citoyen lambda.
Oui, tout à fait. En fait, on n'inclut pas les citoyens lambda. Ça, c'est parce que, vous savez, les décisions se font au niveau politique. C'est pourquoi la plupart des messages clés des différentes ONG, des différentes organisations s'adressent en premier lieu aux décideurs politiques. Et sinon, comment mobiliser davantage les communautés hôtes les citoyens lambda pour pouvoir répondre justement aux besoins des réfugiés, des déplacés internes par exemple. Je pense qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être actionnés, chose que nous sommes en train de faire actuellement au niveau du conseil de la région pour les réfugiés. C'est d'abord le niveau de la sensibilisation à travers justement les différentes activités d'engagement communautaire que nous menons en œuvre dans les différents temps de déplacer dans les différents sites d'accueil pour pouvoir sensibiliser justement les populations hôtes, mais aussi les citoyens lambda sur vous savez, les causes des départs de ces personnes qui les accueillent. Ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, nous avons, on peut avoir un pays très pacifique, qui est en paix. Et du jour au lendemain, on se retrouve aussi réfugiés ou déplacés internes, comme les gens qui nous accueillent actuellement. Donc, mettre l'accent sur la sensibilisation, mobiliser les politiques, on va dire les politiques locales, les décideurs locaux, que ce soit les mairies, que ce soit les chefs de quartier, pour pouvoir aménager des espaces et montrer en tout cas la solidarité vis-à-vis de ces personnes qu'ils accueillent. Au-delà de tout cela, vous savez, les citoyens lambda ou les communautés hôtes ne peuvent pas prendre des décisions eux-mêmes. Il y a des politiques nationales qu'ils subissent, donc à travers le ministère en charge de la sécurité pour pouvoir effectivement mettre en place des garanties, en tout cas des politiques protectrices des déplacés internes et aussi des réfugiés. Et comme c'est le cas, nous avons vu des réfugiés maliens qui sont au Burkina Faso depuis les années 2012, mais aujourd'hui qui se sentent plus burkinabés que maliens. Même aujourd'hui, si la paix, il connaît que le Mali retourne à la paix, c'est un très grand souhait. Et moi, clairement, dit par exemple, de me tourner sur le terrain, et aujourd'hui, ils font faire leur vie sur le terrain au Burkina Faso. Donc, c'est aussi grâce à la solidarité agissante et mécanique des différentes communautés ou des citoyens lambda qui ont, on va dire clairement, qui ont ouvert leur cœur aux personnes qui sont dans les détresse et aujourd'hui qui se font, qui les font sentir, qui les font oublier, en tout cas les situations de déplacement forcés.
En quelques mots, docteur Aïdara, j'aimerais avoir vos idées sur les défis à long terme auxquels les pays africains peuvent être confrontés en raison de ces flux migratoires, de ces flux de réfugiés, pardon.
Oui, merci beaucoup, madame. Les défis à long terme, comme je disais tantôt, le premier défi d'abord, c'est toute la question vraiment de l'éducation. Aujourd'hui, nous voyons vraiment en Afrique que toute la question de l'éducation est perturbée. Les jeunes, les enfants ne vont plus à l'école, donc on a des enfants qui sont hors école, qui se déplacent, qui ne sont pas là, donc, alors que l'éducation est la base de tout, donc ça veut dire que ça va impacter le futur vraiment de ces enfants. Nous avons aussi toute la question du chômage des jeunes, et aujourd'hui, si vous voyez vraiment à long terme, ces jeunes, tous ces jeunes qui sont obligés de quitter leur zone pour aller dans d'autres zones, donc ça les met sans emploi.
L'éducation et le chômage, selon vous. Monsieur Ndouzi, quel défi voyez-vous?
Protection, réinsertion, responsabilité. Je pense que ces trois mots devraient être tels par rapport à la stratégie qui pourrait amener à une meilleure protection de ces populations pour lesquelles eh bien, il faut se mobiliser à l'international mais aussi en interne.
Monsieur Drabeau, et vous?
Deux défis majeurs, le défi démographique, c'est-à-dire la question d'éducation et d'insertion des jeunes, comme Mme Aïdara l'a dit, mais aussi le défi de pérennisation en fait, de la paix dans les pays.
Merci pour vos différentes interventions, Mme Aïdara, M. Drabeau, et vous également, M. Ndouzi. C'est la fin de cette émission Washington Forum depuis Washington DC. Alexandrine Grand-Lognon était à la présentation et merci à vous, chers auditeurs, pour vos réactions et également pour votre fidélité à cette émission. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h30, universitaire sur VOA Afrique, voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.